Nous lisons, pendant cette année scolaire, beaucoup de textes qui concernent la vie de David. Et j'ai pensé relire un psaume de David ce matin. La grâce a été évoquée dimanche dernier. Non, elle est évoquée tout le temps. Mais c'était le thème particulier mis en avant dimanche dernier pendant le culte. Parmi les, je crois, belles actualités, il y en a des beaucoup plus tristes que d'autres, il y en a des très belles. Depuis quelques jours, j'entends parler d'une réunion de prière qui ne s'arrête plus sur un campus universitaire aux États-Unis, à Asbury. Il y a tellement de repentance, d'adoration, de calme, d'écoute de la parole de Dieu, que je fais partie de ceux qui entendent cela et qui ont l'impression que Dieu est vraiment en train de bénir ses étudiants et les quelques dizaines de milliers qui les ont rejoints. En tout cas, la repentance m'a fait penser au psaume 51 que je vous propose de relire ce matin. Un psaume de David qui rappelle, nous allons le voir, à quel point la grâce est première, la grâce est là au tout début et sans elle rien n'existe et aucun d'entre nous ne serait là. Un psaume qui rappelle la place de la repentance, un psaume qui nous montre que David a été miraculeusement éclairé. Psaume 51. Au chef de cœur, psaume de David. Lorsque le prophète Nathan vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba, « Ô Dieu, fais-moi grâce. Selon ta bienveillance, selon ta grande compassion, efface mes crimes. Lave-moi complètement de ma faute. Purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes crimes. Et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait le mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche, dans ton jugement. Voici, je suis né dans la faute. Ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu prends plaisir à la vérité dans le fond du cœur, au plus secret de moi-même. Fais-moi connaître la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi la félicité et la joie, et les eaux que tu as brisées seront dans l'allégresse. Détourne ta face de mes péchés, efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint, rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutiennent. J'enseignerai tes voies à ceux qui se révoltent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche proclamera ta louange. Car tu ne prends pas plaisir au sacrifice, autrement j'en donnerai. Tu n'agrées pas d'holocauste. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Un cœur brisé et contrit, ô Dieu, tu ne le dédaignes pas. Répands par ta faveur tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors, tu prendras plaisir aux sacrifices de justice, aux holocaustes et aux victimes tout entières. Alors, on offrira des taureaux sur ton autel. Que Dieu bénisse sa parole et nous aide à la recevoir, à la méditer, et à la mettre en pratique. Je vous propose de repérer quatre thèmes très présents dans ce poème, dans cette prière, ce cri du cœur, la grâce. Le péché et la repentance, l'importance et le miracle de la révélation. Et enfin, l'incroyable restauration que Dieu annonce. Tout d'abord, la grâce, et je relis devant avec vous le verset 3, Petite remarque technique, selon les numérotations, ça peut être le verset 2, et plus tard, il y a encore un décalage de plus. Donc c'est une des numérotations, mais les versets sont affichés, donc vous les voyez. Ô Dieu, fais-moi grâce, selon ta bienveillance, selon ta grande compassion, efface mes crimes. C'est le verset 3 dans la numérotation, mais en fait, c'est le tout début de la prière. Les mots qui précèdent ne sont que les mots qui donnent le contexte. Donc c'est le tout début de la prière. David crie vers Dieu. Ô Dieu, fais-moi grâce. Et je vous invite à remarquer l'insistance que le cœur de David, inspiré par Dieu, enseigne ainsi quant à la place de la grâce. Avant même de demander pardon, il va le faire. Avant même de confesser ses fautes, il implore le Dieu de la grâce. Sinon, à quoi bon ? Joël enseigne qu'il est bon de venir devant Dieu se repentir, parce que Dieu lui-même est prêt à accorder sa grâce. À quoi bon demander pardon à quelqu'un qui ne serait pas dans l'attitude divine de Dieu qui a décidé d'offrir son pardon ? Et non seulement c'est le premier verset, mais il y a une insistante étonnante que j'ai redécouvert récemment. Il y a des gens beaucoup plus compétents que moi dans la salle, mais quand même, j'ose le dire, il y a une insistance incroyable avec la répétition de trois mots hébreux très forts. En français, dans la traduction que vous avez sous les yeux, c'est la grâce, la bienveillance, la compassion. Le mot du milieu, la compassion, est un des mots les plus connus qui a été cité aussi dimanche passé, la Chesed, un théologien disait, c'est le mot le plus grand de la révélation biblique. En hébreu, les mots ont à peu près tous trois lettres, mais vous comprenez le sens. Un mot vertigineux. Le premier parle aussi de faveur, de miséricorde, de cadeau. Le dernier parle aussi d'amour maternel, de compassion, de tendresse. Trois mots qui donne une insistance incroyable à l'enseignement que David donne en se courbant devant son Dieu et en criant en tant que pécheur repentant. Il commence là où tout commence. Il commence avec la grâce. Sans cette grâce immense, rien n'est possible. Même la plus belle repentance ne sert à rien. Dans une crise spirituelle de ma vie, je me suis demandé si j'avais assez pleuré le jour de ma repentance pour que Dieu me pardonne. Dieu, dans sa grâce, m'a aidé à comprendre que ce n'était pas le nombre de larmes qui comptait, mais que c'était sa grâce qui était déterminante. Et que, bien sûr, il faut que le pécheur reconnaisse son péché, mais que c'est la grâce de Dieu qui est déterminante, et pas la beauté de la repentance d'Étienne. David commence là où tout commence. David commence en implorant le Dieu de la grâce, le Dieu de la miséricorde, le Dieu de la compassion, celui qui a décidé de nous faire grâce bien avant que nous nous repentions, bien avant que nous vivions. Il avait décidé de nous faire grâce. Et comme je viens de le dire, même une fois que nous nous repentons, l'offensé n'a aucune obligation de nous accorder son pardon. Je m'arrête quelques secondes. Quand nous demandons pardon à quelqu'un, c'est une attitude très juste de vérité et d'humilité, mais l'offensé n'a aucune obligation de nous accorder son pardon. Et le grand offensé, le Dieu de tout l'univers, n'avait absolument aucune obligation de tenir compte de la belle repentance des hommes et des femmes que nous sommes. Nous sommes fautifs, je mérite la colère de Dieu pour l'éternité. J'ai beau me repentir de la plus belle des façons, Dieu ne me doit absolument pas le pardon. Mais il a décidé de me l'offrir. Et il a tout fait. Et son fils a été condamné à ma place pour que sa justice puisse être satisfaite en même temps que son amour et sa bonté. Mais je vous invite à repenser et je l'ai fait ces jours-ci et ces heures-ci, au fait que Dieu ne nous doit vraiment rien. Mais Étienne, on le sait, c'est la grâce, oui, mais je le répète. Dieu ne nous doit vraiment rien. Et si nous sommes heureux d'écouter de merveilleux chants ce matin, si nous sommes heureux de méditer la parole de Dieu qui nous donne l'exemple d'un pécheur gracié, de ce qu'on appelle un grand pécheur, parenthèse, gracié, c'est parce que Dieu a décidé, et pas parce que nous sommes de gentils monsieur et madame et garçons et filles qui se sont vraiment repentis, donc Dieu doit bien nous pardonner. Non, 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 non. Dieu n'a aucune obligation. Et je l'ai redécouvert en méditant ce psaume. Deuxième enseignement de ce psaume, oui, quand même, bien sûr, la place de la repentance. David reconnaît ses crimes, tu peux passer la diapo suivante. Et il dit, mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. Une formule forte qui a dérangé plus d'un lecteur de la Bible et de ce psaume. Et évidemment, David sait qu'il a fait du tort à d'autres. Et évidemment. Mais cette formule forte dit que l'offensé, au-dessus de tous les autres, c'est Dieu. J'ai fait le mal. Le verset 7 n'est pas mieux accepté par certains, il dérange. Je me suis fait mal voir par certaines personnes quand je l'ai rappelé, mais je le crois. Un magnifique petit bout de chou fait partie de l'humanité polluée par le péché. Je le crois. Et David l'enseigne, et attention, il n'oublie pas qu'il est en même temps une créature si merveilleuse, psaume 139. Et nous oublions quelquefois l'un et nous oublions l'autre, et nous avons une moyenne tout à fait fausse, tout à fait insatisfaisante. Oui, je suis né dans le péché. Oui, le péché m'environne si facilement, Hébreux 12, et j'ai besoin de la grâce de Dieu après des années au bénéfice de l'œuvre du Saint-Esprit et de la lumière de la parole de Dieu. J'ai besoin de toutes les protections de Dieu parce que le péché m'environne facilement. Il ne vient pas de temps en temps un petit peu abîmer ma vie, il m'environne. David reconnaît profondément son péché et la repentance fait partie de son cheminement. C'est le message de tous les prophètes, repentez-vous. C'est le message de Jean-Baptiste. Repentez-vous, c'est le message de Jésus-Christ. Repentez-vous, le royaume de Dieu s'est approché. C'est le message de toutes les épîtres, et cela doit être le nôtre. Chers frères et sœurs, repentons-nous. Chers amis, pas encore au bénéfice du pardon que Dieu accorde dans sa grâce à tout pécheur repentant, repens-toi devant Dieu. Reconnais ton péché et bénis Dieu pour cette porte ouverte de la repentance. La repentance est quelquefois vue comme ce passage humiliant, obligé que Dieu a instauré parce que sans ça, il ne veut pas nous pardonner. Mais je vous invite à vraiment méditer la repentance comme une porte ouverte. Là où tout aurait pu être bloqué pour nous, Dieu a ouvert la porte. Reviens à moi. Et dans la repentance, il accorde la guérison, la restauration, le pardon des péchés. Troisième remarque devant ce psaume, l'importance de la révélation et l'étonnante révélation que Dieu a accordée à son serviteur David. Ce n'est pas courant lors d'une prédication, mais je vais oser une question. On est en quelle année ? Du temps de David. Aujourd'hui, on est en 2023, oui, ça va. Du temps du psaume, on est en quelle année ? En gros, moins 1000, c'est sorti. C'est facile, moins 1000. David, Saül, David, Salomon, moins 1000, le début de la royauté. On est bien avant Jésus-Christ et l'Évangile. Et qu'est-ce que David va dire ? On y reviendra avec la diapo suivante, mais tu peux la montrer tout de suite. Qu'est-ce que David va dire ? Encore une ? Voilà. Tu ne prends pas plaisir au sacrifice, sinon j'en aurais offert. Quelle incroyable illumination du Saint-Esprit pour le croyant qu'est David. Ce n'est pas les sacrifices qui comptent, c'est un cœur brisé et contrit. Je suis époustouflé depuis des années quand je lis ce psaume devant la révélation que Dieu a accordée à son serviteur David, qui est en plein système sacrificiel, 1000 ans avant Jésus-Christ, et qui dit « ce n'est pas le sacrifice qui compte ». Et il a complètement raison. Ceci dit, à la fin du psaume, le verset est sous vos yeux aussi, David dit « on va offrir des sacrifices ». Oui, il est dans la période sacrificielle où ces sacrifices qui annoncent l'œuvre parfaite de Jésus-Christ ont encore leur place. Mais il a compris que le sang des taureaux et des boucs ne peuvent pas me délivrer de la condamnation éternelle. Par contre, il a compris aussi que le Dieu de grâce accueille un pécheur dont le cœur est contrit et brisé. Il n'a pas encore le maillon déterminant de l'œuvre de Jésus-Christ qui explique comment Dieu va pouvoir faire grâce. Lui qui demande, parce que la justice le demande, que la conséquence du péché ce soit la mort et qui veut nous libérer et qui ne peut pas se contenter des sacrifices des taureaux et des boucs. Il est probable, en tout cas le psaume ne nous permet pas de le penser, que David n'ait pas eu ce maillon-là quand même, mais il a eu énormément de lumière d'en haut pour pouvoir dire qu'il a compris que son péché est beaucoup plus grave pour qu'un rite ne puisse en venir à bout. Il faut toute la grâce de Dieu et le pardon qui va être offert parce que Dieu l'a décidé. Et nous savons, 3000 ans après David, 2000 ans après Jésus-Christ, que Jésus-Christ est celui qui a offert ce qui permet de comprendre comment ce Dieu peut faire grâce au moment où les sacrifices n'auraient jamais suffi. Tu peux revenir à la diapo d'avant, qui dit que tout cela est rendu possible, une révélation aussi étonnante, parce que Dieu a éclairé David. Et David lui dit, ne me retire pas ton Esprit Saint, parce qu'il en a besoin pour comprendre et pour enseigner, j'enseignerai, je proclamerai. Mais il n'aurait pas pu enseigner une vérité vraiment solide et vraiment utile, édifiante, sans que Dieu ne l'aide. Nous avons immensément besoin du Saint-Esprit. Nos amis visiteurs nous ont dit avec force tout à l'heure, il faut connaître Dieu. Merci de l'avoir dit, en portugais et en français. Il faut savoir pourquoi nous sommes là. Vous nous l'avez dit. Comment peut-on ? En lisant la parole de Dieu, en écoutant des amis nous en parler, oui, mais en finale, nous dépendons complètement de l'illumination du Saint-Esprit, de l'œuvre de Dieu qui va ouvrir nos cœurs, nos yeux, notre entendement, notre pensée, pour que nous comprenions ce que David a compris en bénéficiant de plusieurs éléments extrêmement importants qui s'ajoutent avec la révélation finale en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, et lui seul, peut nous aider à comprendre et à proclamer, à témoigner, à enseigner. Incroyable révélation que David a eue, et nous pouvons demander à Dieu aujourd'hui même d'ouvrir nos yeux, nos cœurs, pour que nous soyons nous aussi au bénéfice de la lumière qui vient d'en haut. Quatrième et dernier point souligné devant ce psaume inépuisable, la grandeur, la beauté du salut, de la purification et de la restauration. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. David a compris que ce n'est pas l'hysope qui purifie. Mais il rappelle l'image fondatrice de la sortie d'Égypte pour rappeler que Dieu est celui qu'il peut, dans sa toute-puissance, délivrer un peuple entier de l'esclavage. Purifie-moi et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que neige. Crée en moi un cœur pur. » David a compris que Dieu veut beaucoup mieux qu'un petit peu améliorer les choses. Quelquefois, on a hâte que les choses soient moins mauvaises. Quelquefois, on a tendance entre nous de rafistoler, si vous acceptez le mot. Ou on voudrait bien quand même un ravalement de façade. Pour que ça soit moins catastrophique à regarder. L'extraordinaire bonne nouvelle de l'Évangile déjà proclamée par David dans le psaume 51, c'est que Dieu veut créer en nous un cœur pur. Et David est déjà au bénéfice de l'enseignement que Jésus va donner de façon explicite et très forte à Nicodème. Il faut naître de nouveau. Pour être dans le royaume de Dieu, pour entrer dans la famille de Dieu, il ne s'agit pas d'améliorer en grande partie la plupart des domaines dans la vie, ce qu'on ne sera jamais capable de faire. Mais il faut du tout neuf. Et la prière de David enseigne cela. Crée en moi un cœur pur. David place sa confiance en Dieu seul pour que la transformation intérieure soit profonde et salvatrice. Rends-moi, crée en moi, par ton esprit, purifie-moi et permets-moi de marcher. Rends-moi la joie de ton salut. Voilà une prière à renouveler. Nous voulons être de ceux qui sont honnêtement heureux parce que Dieu est leur sauveur. Vous avez le droit de sourire de moi. On peut être optimiste et puis avoir une vision plus positive des choses. Mais ça, c'est pas du tout la solution. C'est très bien de voir le verre à moitié plein. C'est souvent très, très juste. Mais ce n'est pas ça qui nous donne la joie que David réclame à son Créateur et que je demande vraiment de tout mon cœur à mon Sauveur. Rends-moi la joie de ton salut. Je l'ai, mais affermis en moi la joie de ton salut. C'est tellement incroyable que celui qui vous parle et que vous considérez bien à tort comme un monsieur plutôt correct, c'est incroyable qu'il soit sauvé, purifié, lavé, racheté, et bientôt avec les myriades de myriades qui vont chanter, adorer, louer le Sauveur, le Seigneur, celui qui par sa grâce a tout permis. Conclusion, la grâce est première. Du début à la fin toujours, la grâce est première. Je ne suis sauvé que parce que Dieu a décidé de m'offrir la grâce. Je ne suis sauvé que parce que Dieu relève constamment le bonhomme qui vous parle. Je ne suis sauvé que parce que sa grâce est éternelle et qu'il me tient. Amen. Amen. La grâce est première, la grâce est entière, la grâce est partout. La grâce est irremplaçable. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien. Deuxièmement, la repentance est une merveilleuse porte ouverte offerte par Dieu. Je vous invite à méditer cela. La repentance est une merveilleuse porte ouverte. Ne vivons pas la repentance comme quelque chose d'humiliant, de casse-pied. C'est incroyable. Dieu accueille ceux qu'il aurait pu rejeter pour toujours. Et il nous permet de revenir à lui dans la repentance. Demandons à Dieu tout le temps, constamment, de nous éclairer par son esprit, qui seul peut toucher nos cœurs, éclairer nos pensées, nous permettre de mieux comprendre la grâce, comme il l'a dans sa grâce un peu fait les dernières heures pour moi. Je suis heureux de comprendre un peu plus la grâce. Et puis bénissons celui qui promet, qui prouve, qui montre, qui nous permet de constater qu'il est celui qui peut nous restaurer en profondeur. Il ne s'agit pas d'être un peu moins méchant en surface qu'hier. Il s'agit d'être au bénéfice d'une transformation intérieure qui s'appelle le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Voilà ce que Dieu fait en nous. Voilà ce que Dieu peut continuer à consolider en nous, parce que c'est son projet, parce qu'il est le Tout-Puissant, parce qu'il nous aime et parce que rien ni personne ne peut nous séparer de l'amour agissant de Jésus-Christ, manifesté par sa mort et sa résurrection. Amen.
Amen.
Seigneur, merci beaucoup pour ta parole. Et nous te prions pour que par ton esprit, tu nous permettes à chacun de la recevoir, qu'elle fasse un chemin profond dans nos cœurs. Amen.